Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Le journal Pierrot et la Magie.
Et voici l'ossature de ce journal de la mi-journée sur la fréquence de la paix. Les territoires d'Arou en Ituri connaît une augmentation des cas probables de Covid-19. La société civile indique que des cas de décès dont les symptômes sont apparentés à ceux du coronavirus sont signalés depuis environ 2 semaines dans plusieurs villages. Une situation qui serait due à la porosité de la frontière avec l'Ouganda. 8 personnes ont été tuées hier jeudi au village Mbingi dans les territoires de Beni au nord Kivu. D'après la société civile qui donne l'information, ces assaillants de la DEF étaient visibles dans les villages environnants depuis au moins 2 semaines. Or, les populations ont fui la zone pour se mettre à l'abri. Le lieutenant Anthony Mualushai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, reviendra avec nous sur les dernières attaques des présumés rebelles à DEF dans 2 secteurs de Benimbao et Rwenzori et les actions des FARDC dans la région. Il est l'invité de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous. Il est 13h à Bunia où plusieurs cas probables de Covid-19 sont enregistrés dans les territoires d'Arou. Et selon la société civile de cette entité, des cas, des décès dont les symptômes sont apparentés à ceux du coronavirus sont signalés depuis environ 2 semaines dans plusieurs villages. Cette structure attribue la recrudescence des cas probables à la porosité de la frontière avec l'Ouganda, mais aussi au mépris total par la population des mesures barrières et de la distanciation physique, notamment au marché, dans les églises et les lieux de deuil. Isaac Remoyope.
Une fièvre apparentée au Covid-19 ravage principalement la chefferie de Kakwa dans les territoires d'Arou. Selon la société civile locale, plus de 10 personnes, surtout des vieillards, meurent chaque jour dans cette entité coutumière, affirme la société civile. En dépit de cela, les mesures barrières ne sont pas observées. Il n'y a pas de dispositif de lavage de main devant les maisons de commerce et même les services publics. Dans les places publiques, notamment au marché, dans les écoles et les églises, les habitants ne portent pas de cache-nez. En plus de cela, il y a aussi la porosité des frontières car certains habitants se faufilent pour se rendre en Ouganda où on signale également plusieurs cas de la troisième vague de cette pandémie de coronavirus. Le médecin chef des zones de santé d'Adi rapporte que ces 6 cas positifs avec 6 décès dus au Covid-19 sont déjà officiellement enregistrés dans son entité sanitaire. Cependant, d'autres patients qui manifestent des symptômes de Covid se cachent dans la communauté, surtout dans les villages. Le docteur Simon Ozimati.
Il y a beaucoup de cas qui viennent dans les villages. Comme il y avait des mesures confinement au niveau de l'Ouganda, là, il y a toujours des gens qui faufilent, tout ça, ils entrent à partir de l'Ouganda, ils viennent faire leurs affaires, ils rentrent, tout ça. C'est comme ça que nous avons constaté qu'il y a quand même des cas.
Face à ces défis, les autorités sanitaires ont intensifié la campagne de sensibilisation pour persuader la population à se faire dépister. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et au sud Kivu, à Bukavu, précisément, la police est intervenue hier soir pour mettre fin à plusieurs cérémonies festives dans des salles de fête à Bukavu. Ces festivités enfreignent les mesures liées au coronavirus. En effet, le gouverneur des provinces de la province du sud Kivu a durci les mesures pour indiquer la propagation du coronavirus dans la province. Seules 20 personnes sont autorisées à participer aux cérémonies festives. Tout autre rassemblement, les récalcitrants s'en prendront à la rigueur de la loi, avait prévenu Théo Ngwabidie Kassi au cours d'un point de presse le mardi 3 août. Le point avec Cynthia Bachizi.
L'incident s'est passé ce jeudi soir à 20h. Les éléments de la police ont débarqué dans un immeuble situé sur l'artère principale de Bukavu, qui a 3 salles de fête reparties sur 3 étages. La police a d'abord commencé par conscientiser les fêtards sur les nouvelles mesures limitant à 20 personnes le nombre d'invités lors des cérémonies festives. Les agents de l'ordre ont de ces fêtes demandé aux invités d'évacuer la salle. Ne devrait rester que 20 personnes, chose que les fêtards ont refusée. C'est alors que les forces de l'ordre ont décidé de disperser manu militari les récidivistes. Cela a soulevé un vent de panique et entraîné de bousculades. Plusieurs invités étaient en débandade, une situation qui a fait le bonheur de voleurs à la tire qui ont dérobé subtilement des téléphones, des sommes d'argent et autres biens aux invités. Jackson Kalimba, président de la société civile urbaine, condamne ce qu'il qualifie de comportement incivique de certains compatriotes qui défient les autorités dans leurs efforts de lutter contre la troisième vague de coronavirus à Bukavu. En outre, cette structure citoyenne demande à la police de continuer à faire respecter les mesures barrières, mais dans le respect des droits de l'homme. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu voisin, les collectifs de médecins non alignés sur la liste des bénéficiaires des primes de risque dans la ville de Beni et territoire réclament l'intégration d'un de leurs représentants dans les processus d'alignement prochains sur cette liste. Selon ces syndicats, ce sont eux qui connaissent les vrais médecins sur terrain méritant de bénéficier de cette prime. Le docteur Justin Catalico, coordonnateur du collectif de médecins non primés de la ville de Beni et territoire, est joint au téléphone par André Kitengi.
Nous, à un certain moment, nous avons constaté que certains ministères et certains syndicats voulaient exclure les représentants des médecins non primaires et non salariés au processus d'alignement des médecins. Mais aussi, il y avait un problème par rapport au début du processus d'alignement au quatrième trimestre. Il y avait aussi un problème d'harmonisation administrative des fichiers d'état. À un certain moment, on avait déclaré les médecins qui n'avaient pas droit à percevoir cette prime de risque, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas encore élagé du fichier. Notre souci est que dans le processus d'alignement prochain, qu'on puisse intégrer un représentant de médecins non primés, de nos salariés, parce que c'est eux qui connaissent le vrai médecin qui sont sur le terrain, qui ont vraiment le droit de bénéficier de cette prise de risque. J'habite et officier par la classe politique. Nous revendiquons aussi le problème par rapport au début de l'assemblement du processus d'alignement déjà au quatrième trimestre. Nous réclamons que les assises puissent commencer le plus tôt par rapport à cet alignement-là.
Bouclons ces chapitres consacrés à la santé en retournant ici à Kinshasa, où le ministre de la Santé, Jean-Jacques Bundani, a réceptionné ce jeudi un lot important de matériel médicaux et équipements financés par la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo. Ces lots entrent dans le cadre de l'appui de cette institution financière internationale aux efforts du gouvernement dans la riposte contre la pandémie de COVID-19. La cérémonie des remises s'est déroulée dans les installations de l'entreprise Wagenia, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, en présence de la vice-ministre de la Santé, du conseiller du président de la République en charge de la couverture santé universelle et du docteur Jean-Jacques Mouyembe. Jean-Pierre Elali Koko pour le reportage.
Cet important lot de matériel est d'une valeur de 14 millions de dollars américains. De quoi est-il composé? Le docteur Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé.
C'est un important lot de matériel et équipement pour aider le système sanitaire dans notre pays. À hauteur de 14 millions de dollars, c'est énorme. Respirateurs, concentrateurs, lits, et des matériels pour la réanimation, ce n'est pas simplement pour lutter contre la Covid, mais également appuyer le vœu du chef de l'État qui est d'assurer à la population la couverture sanitaire universelle.
Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, Jean-Christophe Carré, a pour sa part souligné le rôle d'appui de son institution.
Notre rôle, comme je le soulignais précédemment, il n'est pas seulement de financer ces lots de matériel, il a surtout été d'aider le pays à accélérer l'acquisition de ce matériel auprès de fournisseurs, puisque comme on est face à une pandémie mondiale, il y a une très forte tension, une très forte compétition, parce que tous les pays veulent du matériel d'extraction d'oxygène, des respirateurs, des lits d'urgence.
Notons que ce lot de matériel et équipements est destiné à 40 hôpitaux ciblés de la République démocratique du Congo.
Retournons dans la province du Nord Kivu où le village d'Embingi, à environ 10 km de Mamové dans le territoire de Beni, a fait l'objet d'une attaque hier jeudi, une attaque attribuée aux ADEF. Selon la société civile locale qui livre l'information, le bilan provisoire fait état de 8 civils tués, dont 3 femmes et d'autres portées disparues. Son président, Kinos Katuo, indique que les assaillants étaient visiblement dans les villages environnants depuis au moins 2 semaines. Les populations ont fui la zone pour se mettre à l'abri. Kinos Katuo est joint par André Kitengue.
C'est hier dans la matinée de jeudi où encore les ADF ont fait l'incursion dans le village Mbengi. Pour le moment, nous avons un bilan de 8 personnes tuées, dont 4 hommes et 3 femmes, ainsi que plusieurs personnes portées disparues. Dès que l'armée qui est basée à Mamové était formée par nos alertes, l'armée a pris directement la disposition d'y aller et jusqu'à ce moment, l'armée se trouve toujours à Mbengi. Ça fait plus ou moins une année des semaines où l'ennemi était toujours dans ses contrées à partir de Tian Tian où il avait tué une dizaine de personnes. Et à partir de ce jour-là, l'ennemi était toujours caché à Brousse en train de sillonner les chats de la population. Et ça n'a pas permis la population d'évacuer librement ses occupations. C'est ce qui a troublé l'inquiétude de la population et a permis le déplacement massif de la population partout dans les villages environnants.
Contactez les porte-parole des opérations Sokola. Ingrat Nord dit ne pas avoir toutes les informations sur cette incursion. Il promet toutefois se prononcer dès que possible. La restauration de la paix au Nord Kivu dépend entièrement de l'effectivité du programme de démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire. Telle est la réaction du coordonnateur provincial de DRC au lendemain de l'autorisation par l'Assemblée nationale le 3 août dernier de la prorogation de l'état de siège pour la cinquième fois consécutive dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Selon lui, en effet, tous les groupes armés locaux opérant dans la région sont déjà prêts à se rendre sans attendre à être bousculés par la pression militaire des autorités de l'état des sièges. Jacques Katembo est au micro de Bernard Nyangi.
Les groupes armés du Nord Kivu n'ont pas besoin de l'état de siège pour se rendre, n'ont pas besoin de traques. Je vous informe que les groupes armés locaux sont déjà sensibilisés suffisamment. Tous les groupes armés ont déjà signé des actes d'engagement qui prouvent qu'ils ont la volonté de quitter. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est à cause des traques que les groupes armés sont en train de se rendre. On ne peut pas forcer une porte qui est grandement ouverte. Je pense que l'Assemblée nationale doit nous aider à faire œuvre utile, à évaluer la situation. Par exemple, la Kalunguta Mayani, il est là avec son IPDC, en train d'attendre le processus. Kabido, il est en Bois-Vignois. Même le Bouira, les Machan, ils sont prêts à se rendre. Ce qu'ils attendent, c'est l'effectivité du programme du chef de l'État. Nous avons déjà l'ordonnance présidentielle. Les partenaires sont déjà prêts à accompagner la République démocratique du Congo pour les DDRC. Ce qui manque, c'est de nommer les animateurs du DDRCS pour que le programme puisse commencer.
Dans la province du Tanganyika, des tracts menaçant la population viennent d'être jetés dans la localité de Kisengo, à 65 km au nord-est de Nyunzu. Le chef de la localité de Kisengo attribue la rédaction des tracts aux fauteurs du trouble. Et selon l'esprit des tracts, l'accès aux champs est interdit à la population de Kisengo. Sur place, la tension est perceptible parmi les habitants. La société civile locale appelle à l'implication des services de sécurité. François-Xavier Mibé.
Le jet de premier tract est survenu depuis le 1er août près de la source d'eau des Kanchinchi aux environs de Kisengo. Les textes écrits à la main et au bic de couleur bleue sur du papier arraché des cahiers scolaires ne portent pas de signature. Le chef de localité Kisengo. Le tract dit que les cultivateurs n'accèdent plus aux champs. La limite est fixée au niveau de la rivière Kanchinchi parce que la population rapporte du mal auprès des militaires et nous met en conflit. C'est lui qui osera, tant pis pour lui. Les observateurs avisés redoutent que cette situation ne puisse provoquer des conflits dans la zone. La société civile locale appelle à l'implication rapide des services de sécurité pour endiguer la menace.
Il y a les maïs, il y a les maniocs qui sont au champ. C'est très compliqué. La population demande au gouvernement une paix dans notre secteur de Nord Lukuga, en particulier dans notre village de Kisengo.
Il y a lieu de rappeler que la localité orifère de Kisengo est en proie à l'insécurité depuis plusieurs mois. Des miliciens maïmaï présumés à Panapale qui répondent aux commandes d'un certain monde intensifie des attaques contre les civils et les positions de FRDC dans la région de Kisengo. Et depuis, des morts sont déplorés dans ces attaques. Kalemi, François Djabimbe, Radio Okapi.
Nous retournons à Bukavu, cette fois-ci pour parler d'un incendie de grande envergure qui s'est déclaré hier pendant la journée dans un quartier de la ville de la commune d'Ibanda. Le bilan provisoire fait état des 92 maisons réduites en cendres avec tous les effets qui étaient à l'intérieur. L'équipe de la protection civile de la mairie est en train d'évaluer les dégâts ensemble avec la société civile, les chefs des quartiers Nia Lukimba. Jean Kassami a constaté l'ampleur de l'incendie.
Trois avenues sont complètement décimées par les feux, Irambo 1, 2 et Paysage. Les feux s'est vite propagé, la plupart des maisons étant construites en planches. Selon le chef de quartier Nyalukemba, l'incendie a été provoqué par un individu qui voulait se connecter frauduleusement sur la ligne du réseau électrique de la SNEL. La mairie de Bukavu met la population devant ses responsabilités. Selon la société civile urbaine, la mairie a aussi sa part de responsabilité. La ville ne disposant d'aucun véhicule anti-incendie. Depuis que le camion anti-incendie doté par la MONUSCO est tombé dans un ravin sur une avenue de Bukavu, la mairie tourne le regard en direction d'une association belge, comme l'indique ici le chargé de communication.
Après qu'il y ait accident, le camion de la mairie a sollicité un distributeur qui a accepté d'accorder un camion anti-incendie avec ses équipements à la mairie. Jusque là, la mairie attend. Aussitôt ces équipements seront là, la mairie vraiment saura faire face à ces incendies récurrents dans notre ville.
C'est la deuxième fois que les mêmes avenues sont frappées par la même catastrophe. Dans moins de 2 ans, plus de 300 maisons avaient pris feu. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le chef du service des communications du gouvernement afghan a été assassiné lors de la prière du vendredi à Kaboul, a annoncé le ministère de l'Intérieur quelques jours après que les talibans ont promis de cibler des responsables gouvernementaux. Malheureusement, le brutaux et sauvage terroriste ont commis un nouvel acte lâche et tué un patriote afghan qui résistait à la propagande ennemie, Dawa Khan Menapal, lors de la prière du vendredi dans la capitale, a déclaré le porte-parole du ministère Mirwais Stanikzai dans un message WhatsApp à destination de médias.
L'invité.
C'est le lieutenant Anthony Mualushai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord. Avec lui, nous revenons sur les dernières attaques des présumés rebelles ADEF dans deux secteurs de Benimbao et Rwenzori et les actions des FARDC dans la région. Anthony Mualushai s'entretient avec André Kitenge.
Lieutenant Anthony Mualushai, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Comment pouvez-vous expliquer la recrudescence des attaques ADF ces derniers jours dans deux secteurs, notamment le secteur Rwenzori et le secteur Benimbao?
Merci d'abord pour la question. Je vais vous dire une chose. Si vous voyez, vous analysez la situation très bien, vous allez remarquer que l'ennemi ADF ne s'attaque plus au FARDC. Ça, c'est de un. De deux, qu'est-ce qui justifie ces derniers temps la multiplication des attaques de l'ennemi dans les Rwenzori? C'est clair, l'ennemi d'abord ADF n'a plus de force, mais il utilise des enfants du milieu pour, n'est-ce pas, faire parler d'eux. N'oublie pas que dans les Rwenzori à Lume, nous avons dans le temps parlé de Mai Mai qui était là, mais qui a porté la main forte, n'est-ce pas, à l'ennemi. Alors, mais ces derniers temps, l'ennemi aussi qui a besoin, n'est-ce pas, de la logistique, parce que les FARDC qui avaient anticipé les opérations avaient arrêté plus de 100 collaborateurs de l'ennemi. Ce sont les collaborateurs qui lui donnaient la force logistique et pour survivre dans la brousse. Et ces derniers temps, l'ennemi, quand il fait l'incursion dans des villages, c'est pour cambrioler, c'est pour piller des boutiques des paisibles citoyens. Nous, en tant qu'armée, nous avons déjà compris ça et nous avons pris des mécanismes.
Aujourd'hui, l'ennemi, c'est-à-dire les ADF, continue à tuer. À l'espace d'une semaine, il y a eu 41 civils tués. Mon lieutenant, quelle est la différence entre avant l'état de siège et pendant l'état de siège?
Merci beaucoup pour la question. Il y a une grande différence et il faut être d'une mauvaise foi pour ne pas voir ça. La grande différence, c'est qu'il y a des agglomérations qu'on n'en parlait même pas, qui étaient vraiment sous contrôle de l'ennemi. Mais aujourd'hui, toutes ces agglomérations sont nettoyées. C'est pourquoi j'ai toujours dit à notre population et surtout aux acteurs de la société civile, il faut savoir apprécier la personne. Il faut savoir encourager ceux qui font bien pour la sécurisation de notre région. Je prends par exemple la route Beni Kassindi. On en parle plus. C'était à la une de tous les journaux du monde. Mais aujourd'hui, les gens semblent ignorer et les gens n'en parlent pas. Prenons le triangle de la mort. Prenons l'ouest de Wichia.
Comment répondez-vous à tous ceux-là qui disent que l'état de siège a montré ses limites? L'état de siège n'a pas donné des résultats escomptés, surtout dans la région de Beni.
Si vous me dites comment répondez-vous aux députés qui disent que, parce que la majorité d'entre eux sont des députés provinciaux.
Ils sont représentants du peuple.
Exactement. Alors, ils ont dit une mauvaise foi. La question sécuritaire, quand elle devient maintenant politisée, c'est autre chose. Nous devons laisser l'armée travailler. Le commandant suprême qui a mis en place, qui a déclaré l'état de siège dans deux provinces, Ituri et Nord-Kivu, il est mieux informé plus que qui que ce soit dans ces pays et il sait le pourquoi il est en train de faire. Donnons le temps au temps et nous allons vivre la paix dans cette région. Ou soit on veut la paix, on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire à la fois.
Mon lieutenant, nous allons terminer. La population a besoin de savoir. Dernièrement, il y a eu arrestation de plusieurs officiers des FARDC. dans l'affaire du détournement présumé des fonds alloués aux opérations. Où sont ces officiers aujourd'hui? Sont-ils déjà en prison?
Merci beaucoup. D'abord, je vous informe que je ne suis pas le porte-parole de l'UG FARDC. Il a un porte-parole qui a presque tout dit. Mais pour l'instant, si je me permets à vous dire, je vais vous rappeler et rappeler aux auditeurs que ce qui s'est passé ici, ou bien ce qui se passe, parce que les contrôles continuent dans d'autres provinces, c'est un contrôle interne. C'est l'armée qui se contrôle. C'est l'armée qui se contrôle. Alors, vous allez comprendre qu'il y a d'autres choses qui sont internes qu'on ne peut pas vous dire. Mais le porte-parole a dit clairement qu'on a arrêté pour la région des Béni six officiers qui ont été immédiatement acheminés à l'auditorat militaire. Les dossiers évoluent. Voilà, et c'est la suite, c'est les rapports généraux que l'UG FARDC va donner, n'est-ce pas, à l'échelon supérieur, et on va prendre des décisions. Ah, c'est pas moi, Anthony, au niveau opérationnel, qui sait la suite. Donc, croisons le bras, il y aura des résultats finaux et ça sera mis à la place publique et tout le monde saura qu'est-ce qu'on a fait avec nos officiers. Alors, jusque-là, je vous rappelle encore qu'ils sont encore présumés innocents. C'est la justice militaire qui va trancher.
Lieutenant Anthony Moualouchaï, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et ce journal a été mis en onde par Dieudonné Nyangassa et coordonné par Richard Junior Kamouga sous la supervision de Ben Kabamba. Quant à moi, Pierre Lameji, ça a été un réel plaisir de vous le présenter. Il est sur www.radiocapi.net.